Merci Pascal. Je voudrais vous bénir chacun, tous ici présents, tous ceux que vous avez à cœur, votre famille, vos enfants, voilà, vos amis. Je vais vous donner quelques nouvelles de témoins de Jéhovah. L'année dernière, je vous avais parlé des témoins de Jéhovah. Il y a eu juillet, août. C'est la période, on va dire, des témoins de Jéhovah. Ils sortent et ils vont visiter les gens, tout au moins. C'est ce qui se passe à Ronchin. Quand ils sont arrivés, ils n'ont même pas sonné. Je sortais de la maison, j'étais en plein travaux. J'ai eu que des problèmes cet été de travaux, des gros travaux. Et les voilà, je les reconnais tout de suite. Hein. Tout de suite, on les reconnaît, ils sont deux par deux. Et ils étaient dans la rue. Et l'année dernière, j'avais à cœur de les convertir. Oui, moi. J'ai jamais réussi. Hein. Non, on réussit pas à convertir des témoins de Jéhovah. Et quand je les ai vus arriver, il y avait une joie en moi. Une joie qui s'est installée. Et je crois que c'était la joie de l'Esprit Saint. Et je me suis laissé guider sur cette joie. Et je les ai bénis. J'ai dit, ah mes frères, bonjour, vous êtes là. Au nom du Seigneur, merci. Je les ai accueillis, ils étaient tout étonnés, ils disaient, mais on a un sourire, c'est agréable. Et je dis, oui, on peut même prier ensemble si vous le souhaitez. On n'a pas prié, mais on a échangé. Et à un moment donné, je leur ai dit, voilà, moi je suis en cheminement et je pense qu'il nous faut accomplir la loi comme Jésus l'a fait. Mais je dis, voilà, moi j'ai un problème, c'est que il y a des situations, comment accomplir la loi de Jésus. Quand, par exemple, on a une barque, il y a 10 personnes qui ne peuvent monter alors qu'il y en a 12 ou 13, et qu'est-ce qu'on peut faire? Et je leur dis, voilà, le Seigneur Jésus, lui, il a une solution. Il aurait certainement fait un miracle. Mais moi je fais pas de miracle. Alors ils m'ont dit tout de suite, oui, il n'y a plus de miracle. Ah, je dis non. Dans les églises, il y a plein de miracles. Des gens qui se convertissent, des cœurs qui sont bouleversés, des vies qui se transforment, des guérisons physiques, des guérisons mentales. Et ils étaient un peu surpris. Voilà. Mais je les ai bénis. Et là, ça a été. Voilà, ils ont essayé après de me vendre ce qu'ils savent faire. Ils le font très bien d'ailleurs. Ils connaissent très très bien la parole du Seigneur. Mais voilà, après dans mon cœur, j'avais, voilà, il y a des gens derrière, c'est cette communauté qui trompe, qui truque la parole à leur profit. Par contre, ces gens qui sont venus à moi, je pense qu'ils sont vraiment sincères. Et j'avais, dans mon cœur, j'avais l'impression que le Seigneur avait quelque chose pour eux. Voilà. Donc ce sont des frères. Peut-être dans l'erreur, peut-être parce qu'on les a mis dans l'erreur, mais qu'ils soient bénis. Voilà. Je suis convaincu que nous sommes tous à la recherche de quelque chose de plus. Quelque chose qui nous permettrait de nous distinguer des autres, qui nous rapprocherait de la personne que nous aimerions être. Pour les chrétiens, il y a une dimension supplémentaire. Nous souhaitons être ce que Dieu nous appelle à devenir. Vous est-il déjà arrivé de vous poser ces questions? Et si j'étais né pour quelque chose de mieux, quelque chose de plus? S'il y avait en moi quelque chose de plus grand? Nous voulons tous avoir une vie d'impact et laisser un témoignage qui glorifie Dieu, faire avancer le royaume et faire reculer les ténèbres. Nous avons des dons, des talents, des capacités que Dieu a déposées en nous. Avons-nous pleinement saisi l'appel de notre Seigneur? Utilisons-nous pleinement nos dons, nos talents et capacité. Il est essentiel de bien comprendre l'ampleur, la profondeur et la réalité de notre potentiel qui vient de Dieu. Dans le dictionnaire, potentiel est défini par force ou ressource dont on dispose, la capacité ou possibilité de puissance. À l'origine, potentiel est dérivé de trois mots latins. Je ne vais pas vous dire les mots latins parce que je n'ai jamais fait de latin, mais je vais vous dire le premier, il définit pour une puissance. Le deuxième, pour rendre possible. Et le troisième, pour posséder. En d'autres termes, pour saisir notre plein potentiel, il nous faut découvrir une puissance qui rend tout possible, mais que nous devons apprendre à posséder. Tout ça à travers Dieu. Le message d'aujourd'hui s'adresse à nous et à vous, à tous ceux qui écoutent, aux croyants ou aux non-croyants qui se posent des questions, qui commencent un chemin. Un message qui appelle tous ceux qui marchent avec Dieu depuis des années et qui, au regard de leur expérience et accomplissement, sont tentés de considérer que le meilleur est derrière eux, empêchant le Seigneur de continuer d'agir et de faire son œuvre en eux et d'y développer encore et toujours leur potentiel. La terre n'a pas de douleur que le ciel ne peut guérir. Notre passé, avec nos échecs, nos blessures, nos exploits, nos réussites d'hier, ne peuvent ni ne doivent limiter nos aujourd'hui et nos demain. Qui que vous soyez, la lettre de Paul aux Philippiens nous appelle tous à voir et à vivre dans la plénitude offerte par Dieu dans chaque saison de notre vie. Donc ça s'adresse bien à nous tous, enfants, adultes, anciens. Voilà, chacun d'entre nous sommes concernés. Dieu a déposé en nous un potentiel unique qu'il désire voir grandir et se réaliser. On va lire la lecture de Philippiens, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Vous connaissez bien ça. Paul nous dit qu'il y a en chacun de nous des ressources dont nous disposons, des capacités, des possibilités de puissance déposées en nous et que le Seigneur Jésus-Christ veut nous aider à développer. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il y a ici une invitation de Dieu qui parle à notre âme, qui parle à ton âme. Ton appel t'appelle à une œuvre, un accomplissement, une réalisation, des projets, des exploits que toi seul aujourd'hui, là où tu es, tu peux accomplir. C'est vraiment personnel. Dieu vous parle. Ton appel t'appelle. Cet appel n'est pas passif, il est actif et se conjugue au présent. C'est maintenant. Cet appel n'est pas seulement naturel, il est surnaturel, car Dieu a commencé en toi une œuvre et une bonne œuvre. Paul écrit l'épître aux Philippiens au premier siècle de notre ère, au moment des années 54 à 68. L'empereur Néron règne en maître sur Rome et tout l'Empire. C'est un empereur fou qui combat l'expansion prodigieuse du christianisme naissant. Il veut les tuer tous. Nous sommes à peine 30 ans après la mort de la résurrection de Jésus. Néron est rongé par la haine. Il est habité par une folie meurtrière. Il envoie au lion, à la torture, des gens, des milliers de croyants, dans toutes les arènes de Rome. Néron imagine, orchestre et instrumentalise le grand incendie de Rome en l'an 64 pour attiser la haine des citoyens de l'Empire contre les églises chrétiennes, en attribuant tout simplement la responsabilité de l'incendie aux chrétiens de la ville. C'est dans ce contexte de persécution et de tension extrême qu'en l'an 60, Néron ordonne l'incarcération de l'apôtre Paul au seul motif de sa foi. Paul, depuis le début de son ministère, avait formé le vœu d'aller à Rome pour y être prédicateur, pour être pasteur. Et le voilà maintenant prisonnier, enchaîné à un soldat dans une cellule souterraine aux conditions terrifiantes et sordides. Pouvons-nous imaginer un instant l'intensité du tourment par lequel passe Paul quand il est dans ce trou, quand il est seul dans son cachot? Il est possible à Rome de visiter la prison de Mamertine. C'est un donjon souterrain qui avait à l'époque de Paul, il y en avait une dizaine dans la ville. Les vestiges et les écrits historiques de l'époque nous donnent une idée des conditions dans lesquelles Paul était à ce moment-là. Les Romains avaient même torturé les prisonniers, tant physiquement que moralement et psychologiquement. C'est un sport. Les cellules sont à plusieurs dizaines de mètres sous sol. Elles sont exiguës, froides, vétustes. Des centaines d'hommes y sont entassés, pataugeant dans leurs excréments. Les rations alimentaires sont limitées afin de les garder en vie, mais souffrant de la faim. On surpeuple les cellules et régulièrement, on ouvrait les égouts de la ville qui venaient noyer les prisonniers. Et c'était la menace que planait sur Paul. Et c'est là que l'Esprit de Dieu commença à mettre en lui, dans son cœur, d'écrire une lettre destinée aux Philippiens, à l'église de Philippe. Un épître porteur d'un message dont l'influence, l'impact atteindront les croyants et les églises de son époque et transcenderont 20 siècles d'histoire pour se rendre jusqu'à vous et moi aujourd'hui. Aujourd'hui, il ne reste pas grand-chose de la ville de Philippe. Mais il reste la force spirituelle du message de Paul qui continue à révolutionner le monde, une personne à la fois, un potentiel à la fois. C'est un rappel, un engagement pour chacun d'entre nous. Paul, du fond de sa cellule, pense à l'église de Philippe, une église qu'il a fondée 10 ans auparavant, lors d'un second voyage missionnaire. La ville de Philippe, localisée au nord-est de la Grèce moderne d'aujourd'hui, était à cette époque une des plus grandes au monde. C'était une colonie romaine, une métropole cosmopolite sur la route commerciale de l'Empire. C'est une cité totalement assimilée et imprégnée de la culture romaine. Une culture de pouvoir, de corruption politique, un étau social où les dirigeants et hauts responsables se servaient des gens au lieu de les servir. C'était une culture matérialiste où régnait nombre d'injustices et de cruautés. Sur le fond religieux, chacun façonnait son propre Dieu et les citoyens romains invoquaient régulièrement leur mort. Il n'y avait pas là de place pour un Dieu vivant. Le Christ ressuscité et son peuple sur la terre n'existaient pas. C'était une culture farouchement opposée à l'inspiration divine de la parole de Dieu. C'est pourtant là, à cet endroit, que l'apôtre Paul fonde une église d'impact et rappelle à tous ceux que, quelles que soient les circonstances, la culture, les obstacles qui nous entourent, la parole de Dieu n'est jamais liée. Elle est là où le péché abonde, elle est présente et la grâce de Dieu surabonde. On va prendre maintenant une lecture de la lettre aux Philippiens, chapitre 1, versets de 1 à 16, à 6, pardon. Donc on va le garder ce chapitre parce qu'on va, on va le lire. Peut-être pas complètement, ça dépend du temps qui me restera, mais voilà. Chapitre 1, versets de 1 à 6, lettre aux Philippiens. De la part de Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, aux responsables et aux diacres. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous, je ne cesse d'exprimer ma joie à cause de la part que vous prenez à l'Évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la poursuivra jusqu'à son terme, jusqu'au jour de Jésus-Christ. Notre volonté personnelle, notre volonté passionnée de découvrir et de devenir ce que Dieu veut, doit commencer d'abord par un rappel. Nous devons nous rappeler ce que Dieu a déjà fait pour nous. Regardez Paul. Il entame sa lettre. Et il entame sa lettre en rendant grâce à Dieu et en parlant de sa joie. Il ne va pas parler des conditions dans lesquelles il est. Non. Il se souvient de l'église de Philippe qu'il a créée il y a 10 ans. Il rend grâce à Dieu. Et il remercie. Je dis à mon Dieu ma reconnaissance de tout le souvenir que j'ai de vous. Dans toutes mes prières pour vous tous, je ne cesse d'exprimer ma joie. Paul est inspiré, il est encouragé par l'Esprit de Dieu. Il prend une décision de foi courageuse et radicale qui transcende et renverse toutes les circonstances d'injustice qui auraient pu l'étouffer. Paul ne parle pas de ses conditions, non. Il écrit « Je dis à mon Dieu ma reconnaissance ». Et tout le souvenir que j'ai pour vous. C'est une dynamique de foi qui doit devenir un premier pas quotidien dans notre marche vers la destinée que Dieu a tracée pour chacun d'entre nous. C'est concret. Chaque jour, nous devons avancer et remercier Dieu pour ce qu'il a fait. Paul, comme pour David, nous devons aussi, chaque jour, développer cette aptitude à encourager notre âme, cette capacité à fortifier notre esprit en passant en revue les bontés de Dieu. Si on lit la lecture du psaume 103, je vais vous le lire. « Mon âme bénit l'Éternel et rappelle-toi tous ses bienfaits. » On revient à la Bible, Actes chapitre 16. Versets 9 à 12. Je vais vous parler de Paul qui là se trouve dans un voyage en Turquie, la Turquie d'aujourd'hui, et pendant la nuit, il a un songe. Pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplia. Passe en Macédoine, secours-nous. Suite à cette vision de Paul, nous avons aussitôt cherché à nous rendre en Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelait à y annoncer la bonne parole. Après avoir embarqué à Troas, c'est-à-dire en Turquie, nous avons fait voile directement à Samothrace et le lendemain à Néapolis. Ce sont les côtes grecques. De là, nous sommes allés à Philippe. C'est la première ville du district de Macédoine et est une colonie. Nous avons passé quelques jours dans la même ville. Au moment où Paul a ce rêve, comme je vous le disais, il est en Turquie. Il est là pour annoncer l'évangile et bâtir plusieurs églises qui sont au plus grand des cœurs des villes, les plus grandes villes. Et là, l'obéissance de Paul à cette vision fit naître l'église de Philippe. Puis de l'église de Philippe, quand il sera à Rome, va naître la lettre aux Philippiens. Une lettre qui continue de toucher des millions de vies, une personne à la fois, 2000 ans après sa rédaction. Cette lettre aux Philippiens pourrait s'appeler aussi l'épître du potentiel, car elle nous ouvre tant de possibilités à chacun d'entre nous. Alors maintenant, imaginez un instant si Paul n'avait pas obéi. Tout ça serait perdu. Pas d'église de Philippe. Et je ne sais pas. Aujourd'hui, Dieu parle à notre cœur et à notre esprit. D'immenses bénédictions peuvent émerger de la moindre obéissance aux impressions qui semblent banales ou anodines. Les murmures de Dieu peuvent devenir des moments miraculeux. Paul réalise et incarne le potentiel extraordinaire de paix et de joie qui dort en chacun de nous et qui ne demande qu'à être libéré lorsque nous choisissons l'obéissance. Et cette obéissance se fait aussi dans la foi. Paul nous invite à croire, à écouter, à investir encore les impressions, pensées et rêves que Dieu a pour nous. Posons-nous maintenant à présent la question: quel est notre rêve à nous, chacun, personnellement? Quel est notre rêve qui sommeille en nous depuis des années, ou depuis des mois, ou depuis quelques jours? Lorsque la voix de Dieu se fait entendre en vos forts intérieurs, agissez, obéissez. Nous ne pouvons imaginer le potentiel extraordinaire qui existe derrière quand on fait un acte d'obéissance et de foi. Non seulement Paul se rappelait-il du rêve qui l'avait conduit à l'implantation de l'église de Philippe, mais il se souvenait aussi des premières personnes qui l'avaient composé. Tout le souvenir que je garde de vous. Il se souvenait des premières personnes qu'il avait converties. Il s'agit de Timothée, de Lydie, d'une esclave et d'un geôlier. Et je vais en faire leur portrait, parce que c'est important pour nous, parce qu'il y a un écho qui peut vous réveiller. Quatre vies, quatre témoignages qui continuent 2000 ans plus tard à nous rappeler le potentiel extraordinaire et sans limite qui réside dans chaque être humain qui décide de suivre Jésus. Lecture de Actes 16:1. Et voici, il y avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive fidèle et d'un père grec. Les frères de lui rendaient un bon témoignage. Bon. Donc de Timothée, dans la Bible, on y découvre un jeune homme timide, possédant un bon témoignage. C'est un bon garçon, c'est bien. Mais il traîne derrière lui un passé religieux un peu confus. Alors, il a de la part de sa mère quelque chose de solide, puisqu'elle est juive. Donc, mais par contre, de son père, on ne connaît pas grand-chose. Mais on sait qu'il est grec. Donc il aurait pu être tout aussi bien ne connaissant pas Dieu, pas du tout, ou alors polythéiste, connaissant multiples dieux. On n'en sait rien. Timothée incarne aujourd'hui la nouvelle génération de jeunes avec un arrière-plan spirituel peu affermi. Certains ont dans leur famille des membres qui connaissent le Seigneur, des parents qui sont chrétiens, engagés, mais qui ont besoin, comme le jeune Timothée, d'en arriver à leur propre conversion, décision et expérience avec Dieu. Voilà, on a des Timothées dans la rue, on a des Timothées qui sont là, qui ont quelque chose, mais voilà, il faut les accompagner. et qui découvre Dieu. On continue avec Actes au chapitre 16, de 13 à 15. Le jour du sabbat, nous nous sommes rendus à l'extérieur de la ville au bord d'une rivière où nous pensions trouver un lieu de prière. Nous nous sommes assis et avons parlé aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles s'appelait Lydie. C'était une marchande de pourpre, originaire de la ville de Thyatir, qui craignait Dieu. Elle nous écoutait et le Seigneur a ouvert son cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. Après avoir été baptisée avec sa famille, elle nous a invités en disant « Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison et logez-y. » Et elle a fortement insisté pour que nous acceptions. Voilà, ça c'est Lydie. Lydie vient d'une ville de Thyatir, située à l'ouest de la Turquie. Et elle possède une résidence secondaire à Philippe. C'est une femme d'affaires, on va dire une mania de l'industrie de l'époque, du vêtement, de la mode, des sphères habituellement réservées normalement aux hommes de cette époque. C'est une femme d'influence, sans doute à la tête d'une grande fortune. Lydie possédait des biens matériels dont elle pouvait être fière aussi, et puis de ce qu'elle rêvait, elle pouvait l'avoir. Elle incarne tous ceux qui ont des carrières florissantes, des succès, des professions, des possessions matérielles, mais qui au fond d'eux-mêmes crient « J'ai besoin de plus, j'ai besoin d'autre chose, il me faut plus que cela. » Elle a un vide que tout son succès matériel ne pourrait combler. Elle en est arrivée, comme des milliers de personnes, aux limites décevantes et vides de sens d'une vie axée sur la consommation et le matérialisme. Lydie n'était pas polythéiste, c'est-à-dire plusieurs dieux, mais contrairement à la croyance de l'époque, mais elle était croyante pour un Dieu vivant et elle avait même une certaine crainte de Dieu. Acte chapitre 16, versets 16 à 18. Je vous décris les personnages. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédications, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit « Je t'ordonne au nom du Seigneur Jésus-Christ de sortir d'elle. » Il est sorti au moment même. Donc la troisième personne qui s'est jointe à l'église de Philippe, c'est donc la jeune esclave. Elle est en contraste parfait avec Lydie, qui elle avait tout et elle n'a rien. On lui a tout arraché au profit d'autrui. Elle était aussi totalement en contraste avec Timothée, qui lui avait un arrière-plan empreint de valeurs morales et spirituelles et religieuses. Aujourd'hui, on pourrait rencontrer cette jeune fille qui a grandi dans un contexte familial et social dysfonctionnel, qui devient victime d'abus et d'exploitation. Cette jeune esclave a encore aujourd'hui 1000 visages, des enfants de guerre, aux filles et garçons esclaves du travail, aux victimes d'exploitation sexuelle. Elle serait cette jeune fille que vous connaissez, celle qui n'a pas eu de chance. Au-delà de son esclavage, elle était liée par un esprit méchant. Pourtant, elle écoutait, suivait et appréciait l'enseignement de Paul et de Luc. Elle disait d'eux qu'ils étaient les serviteurs du Dieu très haut et annoncent la voie du salut. C'est étonnant, c'est très étonnant. C'est même particulier, je trouve. Elle avait la bonne confession. Elle disait de les bonnes choses. C'était vrai. Mais elle était encore enchaînée, liée par un esprit. Cette jeune esclave représente toutes ces personnes qui, semaine après semaine, sont touchées par le message de l'Évangile et confessent. Ces gens-là, ces chrétiens, sont des braves gens, des bonnes gens, des serviteurs du Très-Haut, et qui annoncent, et ce qu'ils annoncent est vrai. Toutefois, ils ont encore des captivités, des dépendances, des liens, des oppressions et des chaînes. Ces personnes-là ont commencé à voir la vraie lumière, mais elles ont besoin d'être libérées. Actes chapitre 16, versets 19 à 24. Quand les maîtres et la servante ont vu disparaître l'espoir de leurs gains, ils se sont emparés de Paul et Sylla et les ont entraînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant « Ces hommes sèment le trouble dans la ville, ce sont des juifs. » Et ils annoncent des coutumes qui ne nous sont pas permis d'accepter ni de suivre, nous qui sommes romains. La foule s'est ainsi soulevée contre eux, les juges ont fait arracher leurs vêtements et ordonné qu'on les batte à coups de fouet. Après les avoir roués de coups, ils les ont jetés en prison, en recommandant aux gardiens de la prison de les surveiller de près. Face à une telle consigne, le gardien les a jetés en prison et emprisonné leurs pieds dans des entraves. Oh, c'est une scène surréaliste, là. C'est complètement incroyable. Mais ça sert de prélude pour la rencontre avec notre quatrième membre de l'église de Philippe. C'est le gardien, le geôlier. On poursuit la lecture, versets 25 à 27. Vers le milieu de la nuit, Paul et Sylla priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers écoutaient. Tout à coup, il y a un tremblement de terre si violent que les fondations de la prison sont ébranlées. Toutes les portes se sont immédiatement ouvertes et les liens de tous les prisonniers ont été détachés. Lorsque le gardien de la prison s'est réveillé et a vu les portes de la prison ouvertes, il a tiré son épée, prêt à se tuer, car il croyait que les prisonniers s'étaient enfuis. Bon, le verset 25 à 27, c'est très puissant. Dieu est à l'œuvre. Le bâtiment est ébranlé, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Ouh. À son réveil, le gardien, pour lui, tout était fini, c'était clair. L'implacable loi romaine était claire. Si tu laisses échapper un prisonnier, tu seras exécuté. Nous pouvons imaginer un homme habité par le mal, ce geôlier. Les historiens parlent de ceux qui occupaient le poste de geôlier de prison romaine, qui étaient souvent des militaires, des anciens militaires. Donc des hommes rompus au combat, des hommes durs, et qui en avaient tellement vu dans leur vie que le cœur était endurci. Notre gardien a donc attiré son épée, prêt à se tuer. À quoi bon toute cette vie de dureté, quoi. Non, il veut en finir. De toute façon, ils sont tous partis. Il veut mettre fin à sa vie de médiocrité. Aujourd'hui, il pourrait représenter toutes ces personnes qui ont si peu d'attente que lorsqu'un tremblement de terre arrive dans leur vie, ils choisissent d'y mettre fin, ils choisissent d'y mettre un terme, foudroyés par un événement douloureux qui surgit. La fatidique petite goutte d'eau qui déborde et qui fait déborder le vase. Le suicide leur semble être leur unique porte de sortie. On retourne à Actes 16, 28 à 30. Mais Paul a crié d'une voix forte, « Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. » Alors le gardien a demandé de la lumière, est entré précipitamment et s'est jeté tout tremblant aux pieds de Paul et Sylla. Il les a fait sortir et il a dit, « Seigneur, Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Pour le geôlier, au moment où il allait mettre fin à sa vie, il entend une voix forte et puissante. Ne te fais pas de mal, car nous sommes tous ici. Imaginez cet homme endurci, le cœur dur, qui va mettre fin à ses jours. Qui sont ces gens qui me parlent, qui sont attentionnés? Je vais me tuer et puis... Non, ne fais pas ça. On s'occupe de lui. Ces gens, ce sont les enfants de Dieu, qui aujourd'hui continuent de crier par-dessus les décombres de la morosité, du cynisme, de l'égocentrisme et du pessimisme ambiant, transcendant leurs propres douleurs, combats et épreuves. Non, ne te fais aucun mal. Nous venons t'annoncer, à toi qui traverses un tremblement de terre dans ta vie, Dieu veut donner un sens à ta vie et développer le potentiel que tu ne soupçonnes même plus. L'apôtre Paul nous rappelle le potentiel en devenir qui se trouve en chacun d'entre nous. Et ça, c'est pour ceux qui choisissent de suivre Jésus-Christ. Il rappelle le potentiel extraordinaire de chaque conversion. Mais ceci n'est qu'un commencement. Il poursuit par un second rappel. Atteindre notre plein potentiel doit passer par le développement de notre capacité à faire confiance à Dieu. Et là, je ferai un deuxième message. Ça sera la suite. Donc ce message, je ne vous l'ai pas dit, mais il vient de Claude Hood. J'ai tiré d'un livre qui s'appelle Potentiel. Donc voilà, je remercie Claude Hood qui a permis de faire ce message. Donc je vais prier. Voilà. Alors Seigneur Jésus, voilà, ce message est pour nous tous, petit, grand, notre cœur est pour toi Seigneur. Nous avons tous besoin d'être renouvelés chaque jour. Alors Seigneur, envoie ton Esprit Saint pour que chacun d'entre nous soyons éveillés, que nous ayons ce cœur à cœur avec le Seigneur, avec Jésus et aussi avec le Père. Voilà, que nous soyons guidés par l'Esprit Saint pour que nous soyons vraiment à ton image. Seigneur Jésus, nous te suivons, nous t'adorons. Nous sommes des enfants, Seigneur, et nous avons besoin de toi pour être guidés. Voilà, pour certains, c'est au secours, Seigneur Jésus. Au secours. Pour d'autres, c'est nous rendons grâce, Seigneur, pour toutes tes bénédictions, pour tous tes bienfaits. Voilà, rappelle-nous ce que tu as fait déjà pour nous, pour que nous puissions nous en servir le jour venu, quand nous serons dans l'épreuve, pour que nous puissions être forts, comme Paul dans sa prison à Rome. Voilà, Seigneur, je te remercie. Nous te remettons tous nos problèmes, tous nos péchés à ta croix. Viens nous délivrer, Seigneur, de tout péché. Amen.